Bonsoir. Un homme soupçonné d'être proche des talibans sous surveillance en France, il aurait profité de la confusion à Kaboul pour embarquer sur un avion direction Paris. La France a évacué quelques 2000 personnes du pays. Nous irons à Kaboul. Les talibans refusent que les Américains restent une journée de plus dans la ville pour organiser l'évacuation. Le club de foot de Nice s'attend à des sanctions après le match contre Marseille qui a viré à la bagarre générale. Enquête ouverte, les ministres des Sports et de l'Éducation mettent la pression. Commission de discipline de la Ligue après-demain. Le ministre de la Justice attendue à Marseille demain. Le maire de la ville demande un parquet spécialisé dans les affaires de drogue. 3 morts de plus dans des règlements de compte ce week-end. Comment lutter contre les trafics de drogue? Ce sera le téléphone sonne tout à l'heure, Éric Delvaux.
Mais oui, parce que mine de rien, ça fait 50 ans que la France a instauré une politique dite répressive. Je dis mine de rien parce que le bilan est peu probant. Alors on verra avec les invités quelles sont les éventuelles solutions, sachant que le gouvernement veut en faire une priorité de la rentrée.
Et pour intervenir au standard, c'est maintenant le 01 45 24 7000. Dans l'actualité encore, pas de panthéon pour Gisèle Halimi, mais un hommage aux invalides l'année prochaine. Le témoignage d'un médecin généraliste à Tahiti, taux d'incidence du Covid près de 3000 en Polynésie. Covid qui gâche un peu la fête à la veille de l'ouverture des Jeux Paralympiques de Tokyo. Et puis la météo demain, temps plutôt agréable, des orages à l'est du Rhône et des températures de saison.
France Inter.
La France est au rendez-vous de la solidarité avec l'Afghanistan. C'est ce qu'affirme le chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian depuis Abu Dhabi, par où passent les personnes exfiltrées par les services français. 8 jours après la prise de Kaboul par les talibans, combien de personnes exfiltrées par la France? Réponse du ministre cet après-midi.
Demain, il y aura eu 2000 personnes qui auront été évacuées en un tout petit peu plus d'une semaine depuis Kaboul. C'est un exploit. D'ailleurs, chaque vol est un exploit. 2000 personnes, 90 Français. Les autres sont soit des agents locaux qui ont travaillé pour nous en petit nombre, parce que beaucoup avaient déjà été évacués avant, soit des auxiliaires de défense, et puis essentiellement des Afghans qui sont en risque, en difficulté, de par leur engagement, qui nous ont été recommandés par leur propre histoire, et qu'il importe que la France assure le devoir moral de les exfiltrer.
2000 personnes évacuées par la France en un peu plus d'une semaine, mais dans le chaos de Kaboul, nous y allons dans un instant. Effectuer tous les contrôles nécessaires avant embarquement est impossible. Et Ariane Grissel, il s'avère qu'une personne soupçonnée d'être proche des talibans a été identifiée après avoir embarqué destination la France.
Oui, un Afghan âgé de 30 ans, il fait partie des personnes qui ont été évacuées mercredi dernier de Kaboul. À ce moment-là, la situation est effectivement trop confuse pour vérifier le lien de chacun avec les talibans. Mais la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, mène quand même des entretiens de sécurité. En l'occurrence, pendant une escale à Abu Dhabi. L'homme reconnaît avoir aidé les talibans à tenir un barrage à Kaboul, armé. Des investigations sont en cours pour savoir s'il s'agit d'une adhésion opportuniste à la cause talibane ou si c'est un sympathisant plus ancien. Dans l'entourage du ministre de l'Intérieur, on précise que l'homme a beaucoup aidé au moment d'évacuer l'ambassade de France à Kaboul et que ça a pesé dans la décision de le laisser quand même embarquer vers Paris. Une autre source ajoute qu'il risquait des représailles pour cette aide. Quand il a atterri en France, l'homme a été conduit dans un lieu d'accueil de Seine-Saint-Denis et placé sous contrôle administratif. Interdiction donc de circuler comme il veut. 4 de ses proches arrivés en même temps que lui, sont également en ce moment sous surveillance.
Et nous allons à Kaboul à présent. Notre confrère de RFI, Vincent Souriau, est arrivé hier dans la ville. Il nous racontait à la mi-journée les rotations d'avions qui s'enchaînent dans la tension. Les Américains contrôlent le tarmac et certaines entrées de l'aéroport. À l'extérieur, les talibans veillent. Les familles qui cherchent à partir dans une chaleur infernale après avoir fui leur domicile. Le risque de dérapage à tout moment. Les mouvements de foule qui provoquent des morts. Autre récit, au-delà de l'aéroport, quelle ambiance dans la ville de Kaboul? Sur place donc, Vincent Souriau.
Tout est allé si vite que Kaboul n'arrive pas à suivre. Il y a par exemple ces immenses dessins du commandant Massoud, l'ennemi juré des talibans, qui trônent toujours sur les murs de la ville et qui jusqu'ici n'ont pas été vandalisés. Les banques toujours fermées et barricadées alors qu'il n'y a plus d'argent liquide en ville. Les marchés qui viennent à peine de rouvrir, les étals sont pleins de fruits, de viande, de vêtements, mais la clientèle n'est plus là et les commerçants tirent la langue. Et puis il y a le règne des talibans qui patrouillent sans cesse dans leurs pick-ups américains avec leurs barbes noires et leur Kalachnikov bien en évidence, qui contrôle tous les carrefours, scrutent l'intérieur des voitures et se font un malin plaisir de fouetter les conducteurs qu'ils estiment suspects, de tirer en l'air pour effrayer les piétons ou de lancer des rodéos toutes sirènes hurlantes. Ajoutez à cela les milliers de réfugiés qui dorment par terre en ville, les files d'attente devant les rares ambassades encore ouvertes dans l'espoir d'obtenir un visa. On sent que Kaboul se prépare au pire après la date butoir du 31 août. Vincent Sourieux, Kaboul, RFI pour France Inter.
Les Américains devront-ils rester plus longtemps en Afghanistan pour organiser l'évacuation? Joe Biden ne l'exclut pas. Londres et Paris plaident en ce sens. Un délai supplémentaire est nécessaire, dit Jean-Yves Le Drian. Sauf que les talibans ne veulent pas de cette prolongation. Leur porte-parole, Soua Shahin, le dit à la télévision britannique Sky News.
On peut considérer cela comme une ligne rouge. Le président Biden a annoncé cet accord selon lequel au 31 août, ils auraient retiré toutes leurs forces militaires. S'ils prolongent, ça veut dire qu'ils prolongent leur occupation, alors qu'il n'en est pas besoin. Je crois que ça va détériorer les relations, ça va créer de la méfiance entre nous. S'ils ont l'intention de prolonger leur occupation, cela provoquera une réaction.
On voit Franck Madvon. Quant à l'association Action contre la faim, elle dit vouloir reprendre ses activités en Afghanistan. ACF dit aider plus de 400 000 personnes dans le pays. En Tunisie, c'était il y a un mois, le président Saïed s'arrogeait tous les pouvoirs au nom de la lutte anticorruption dans le seul pays où les révolutions arabes ont eu une issue démocratique. Ces mesures d'exception doivent être renouvelées après 30 jours, on y est, et le président n'a pas l'air de vouloir lâcher la bride. Pour l'instant, l'opinion ne lui en tient pas rigueur. Au contraire, France Inter à Tunis, Maureen Mercier.
Meriem, 40 ans, est ici comme la majorité des gens. Elle respire depuis le coup de force de Kais Saied. En 10 ans, les parlementaires ont réussi à créer l'unanimité contre eux. Ce qui compte pour Meriem, c'est que le président mène une guerre contre la corruption et tant pis si l'état d'exception doit durer plus longtemps.
Le Covid, en fait, c'était un virus inoffensif par rapport aux députés qu'on avait.
Oussema, 34 ans, musicien, fait partie des premiers jeunes qui se sont mobilisés il y a 10 ans contre le régime de Ben Ali. Pour lui, la Tunisie est en train, enfin, de bâtir son propre modèle démocratique. Que Kais Saied se transforme en nouveau dictateur, même pas peur.
Si on estime qu'il est en train de déconner, on va se remettre vers la même dynamique qu'on avait pendant l'ère de Ben Ali. Des manifs, et si ça part en violence, eh ben tant pis.
À la communauté internationale qui s'inquiète, il réplique...
Merci de vous inquiéter, on gère.
Kais Saied s'est engagé dans son dernier discours la semaine dernière à présenter très prochainement un nouveau gouvernement. Il n'a même pas mentionné l'avenir de l'Assemblée. Son coup est-il un électrochoc positif ou comporte-t-il un vrai risque de basculer vers une forme de régime autocratique? Une Tunisienne résume, nous faisons un vrai saut dans l'inconnu. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
Elle était née en Tunisie. Faute de Panthéon, il y aura un hommage officiel aux Invalides l'année prochaine en l'honneur de Gisèle Halimi. L'hypothèse d'une entrée dans le top des grands hommes de la militante féministe avait été écartée parce qu'en tant qu'avocate, elle avait défendu des militants du FLN pendant la guerre d'Algérie. C'est finalement Joséphine Baker qui entrera au Panthéon le 30 novembre. Elle est l'incarnation de l'esprit français, selon l'Élysée, dans un communiqué aujourd'hui. Faut-il des magistrats, un parquet spécialisé dans la lutte contre la drogue à Marseille? C'est la demande du maire de la ville, Benoît Payan, aujourd'hui. Le ministre de la Justice répondra peut-être à la question demain. Éric Dupond-Moretti attendu à Marseille pour parler en principe de la justice des mineurs. Il y a une explosion du nombre des affaires de drogue à Marseille ces deux derniers mois, constate la procureure de la République. Marseille dans l'actualité pour une toute autre raison. Après le match de championnat de France de football à Nice hier soir, qui a tourné à la bagarre générale, une série d'enquêtes préliminaires est ouverte par le parquet de Nice. Événement déclencheur, une bouteille en plastique lancée depuis les tribunes contre le joueur marseillais Dimitri Payet. Il renvoie la bouteille. S'en suivent de longues minutes de confusion et d'empoignades impliquant joueurs, spectateurs descendus sur le terrain, stadiers censés les en empêcher. À nos confrères de l'équipe, le président du club de Nice dit « On assume notre part de responsabilité. Inacceptable que des bouteilles soient jetées depuis les tribunes et que des spectateurs puissent fouler la pelouse. Ils s'attendent à des sanctions. » Les deux clubs sont convoqués après-demain par la commission de discipline de la Ligue de football, en sachant que les dirigeants niçois pointent aussi le comportement provocateur de plusieurs Marseillais. Alors Alexandre Vaux, à quoi va ressembler l'audition de ces deux clubs mercredi?
Une enquête va être ouverte, Bruno, un instructeur nommé. Les deux clubs seront représentés et vont pouvoir débattre, se défendre. Des pièces vont être apportées au dossier. On poste notamment aux images de vidéosurveillance du stade de Nice. L'affaire va être décortiquée en trois volets. Le comportement des supporters niçois, le club risque là une amende, un huis clos ou un huis clos partiel. Parenthèse, on en a parlé ce midi, souvenez-vous, il y a 15 jours, suite à des incidents à Montpellier, deux tribunes ont été fermées à titre conservatoire et deux personnes déférées devant la justice. Les supporters risquent une interdiction de stade et peut-être même de la prison avec sursis. Deuxième volet, la bagarre générale. Hier, là aussi, il peut y avoir au moins des sanctions sportives. Et puis, la grande question, le résultat du match qui reste pour l'instant de 1-0 pour oui. Nice. Le caractère exceptionnel de la soirée d'hier pourrait inverser le résultat dans le souci d'apporter de réponses fermes et autoritaires de la part des instances. Il n'y aura pas de sanctions définitives prises après-demain, mais très certainement déjà de premières sanctions à titre conservatoire.
Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu soutiendront toute action judiciaire à l'encontre des responsables de ces actes inqualifiables, font savoir les ministres de l'Éducation et des Sports. C'est une information que nous vous donnions la semaine dernière sur France Inter avec nos confrères de France Bleu Touraine. La mort d'une femme de 44 ans lors d'un stage de jeûne à Noyon de Touraine. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. La préfecture d'Indre-et-Loire a mis fin au stage organisé par un naturopathe. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Pour la première fois Delphine, un participant raconte comment se déroulait ce stage.
Participant qui souhaite rester anonyme, il raconte l'absence totale d'accompagnement pendant ce stage à plusieurs milliers d'euros. Poids, rythme cardiaque, tension, les jeûneurs prennent seuls leur constante, en informent oralement l'équipe le matin quand ils le peuvent, car face aux effets secondaires, on est livré à nous-mêmes, explique-t-il.
Moi et d'autres personnes, il suffisait qu'on était malade un jour ou deux jours ou trois jours, il y avait personne qui venait nous voir. On était tout seul face au mal-être. Ça peut être du vomi, on pouvait tomber dans les vapes, ça m'est arrivé, et j'ai vu personne.
Il raconte aussi des curistes malades évacués sans l'aide des encadrants.
J'ai pris peur pour certains où même l'eau n'arrivait plus à le boire, il le vomissait. Il y avait même une personne qui était gravement malade du foie. Où on lui disait de jeûner et moi j'ai pris peur quand je l'ai vu parce que elle était figée par terre et on lui a même dit de partir dans cet état-là. Ils ne sont même pas inquiétés dans l'état où elle allait partir.
Et pour cette malade du foie, le témoin a contacté lui-même la famille. Pour un autre diabétique, un jeûneur l'a lui-même conduit à l'hôpital. Des propos confirmés hors micro par un autre participant. Quant à la quadragénaire morte mi-août dans sa chambre, l'organisateur du stage, Éric Gandon, a laissé entendre aux participants ainsi qu'à des confrères journalistes que le vaccin contre le Covid était en cause, sans preuve. Il nous renvoie vers les participants satisfaits de sa cure et menace de poursuivre en diffamation tous ceux qui porteront atteinte à son image.
2215 personnes sont en réanimation en France à cause du Covid. Ce sont les derniers chiffres. L'épidémie reste à un niveau assez élevé avec de fortes inquiétudes localement. En métropole, le département où le taux d'incidence est le plus élevé, ce sont les Bouches-du-Rhône, 671. Rappelons que le premier seuil d'alerte est à 50. Mais c'est évidemment en Outre-mer qu'il y a le plus d'inquiétude. Martinique, taux d'incidence près de 1000. Guadeloupe, près de 2000. Polynésie, on approche des 3000. 2800 cas pour 100 000 habitants. Le docteur Nicolas Gauthier est médecin généraliste à Taravao, sur l'île de Tahiti. Les Polynésiens sont nettement moins vaccinés que la moyenne des Français. 30% de personnes complètement immunisées contre 60% en moyenne en France. Pourquoi cela ?
Il y a deux facteurs principaux qui ont joué sur ce gros retard de vaccination. Comme partout, je pense, de la désinformation qui circule essentiellement sur les réseaux sociaux quand même. Et puis c'est vrai que comme on a été franchement épargné par la Covid jusqu'ici, c'est-à-dire qu'au moment où c'était la catastrophe en métropole et en Europe, les mesures de fermeture des frontières ont permis à la Polynésie d'être épargnée au départ. Je pense que la population a pas vécu ces premières phases de Covid comme quelque chose d'extrêmement dangereux avec les morts qui s'ensuivent et les grosses complications qu'on a actuellement parce que le danger n'était pas visible. Et c'est vrai que depuis 15 jours, l'hôpital est surchargé, on peut malheureusement plus hospitaliser tout le monde, donc on doit gérer des patients lourds avec de l'oxygène à domicile, des aérosols. C'est vrai que les mesures de confinement qui ont été prises, peut-être un peu tardivement, en tout cas, elle devenait indispensable.
Un propos recueilli par Cécilia Arbona. Selon un sondage de l'Institut Elab, le pass sanitaire reste approuvé par une large majorité de l'opinion, de 64% des personnes interrogées pour les bars, restaurants, à 77% pour le train ou l'avion lors des voyages longue distance. Et puis alors que Didier Raoult est poussé vers la sortie à l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée à Marseille, en cause ses propos sur le vaccin, sur franceinter.fr, précision, que dit-il sur la vaccination vaccination. Nous avons consulté ses vidéos YouTube qu'il met en ligne tous les mardis. L'épidémie de Covid a entraîné le report d'un an des Jeux Olympiques, puis a longtemps menacé leur tenue cet été. Va-t-elle gâcher la fête paralympique qui commence demain? 131 athlètes déjà contrôlés positifs, 22 sports pour ces Jeux paralympiques, dont le taekwondo et le badminton, deux nouveautés de l'année. 4400 athlètes attendus, les Afghans ont finalement dû renoncer. Les organisateurs espèrent toucher plus de 4 milliards de téléspectateurs. Et malgré cette menace du Covid, malgré le huis clos dans les stades et salles de sport, y a-t-il de l'enthousiasme? Damien Séguin, double médaillé d'or en voile et qui a bouclé au début de l'année un Vendée Globe sans main gauche, est le consultant de Radio France pour ces Jeux paralympiques.
Ça fait une semaine qu'on est rentré dans le village paralympique. C'est difficile d'avoir le sentiment extérieur de la part des Tokyoïtes ou des Japonais en général, parce qu'on est très cloisonné dans le village à cause des conditions sanitaires qui font qu'on ne peut pas sortir sur l'extérieur. Donc on ne sait pas vraiment comment sont accueillis ces Jeux paralympiques de la part des locaux. Après, à l'intérieur du village, on voit quand même beaucoup d'effervescence. Les nations sont quasiment au complet. Il y a de plus en plus d'appels de journalistes, mais on n'a pas de contact direct parce qu'il n'y a pas de zone mixte à l'intérieur du village, contrairement aux dernières éditions. Donc c'est vrai qu'on se sent un petit peu coupé du monde.
Damien Séguin avec Guillaume Batin, cérémonie d'ouverture demain, 20h.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Elodie Calac, à quoi faut-il s'attendre pour demain ?
Eh bien, de la Bretagne et du Cotentin vers les Charentes, le Centre-Val de Loire, l'Auvergne, le Jura, le Lyonnais, on aura un réveil parfois bien encombré, mais les éclaircies reviendront en cours de matinée, elles seront même belles l'après-midi. Du nord de la Seine vers le nord de l'Alsace et sur le sud-ouest, là le soleil s'imposera dès le matin. Et puis à l'est du Rhône, des nuages parfois menaçants avec des averses et des orages, d'abord sur le relief, mais qui pourront déborder vers la Côte d'Azur. On aura toujours du vent, Mistral, Tramontane sur le sud-est, jusqu'à 50 à 60 km à l'heure, un cran au-dessous d'aujourd'hui. Et puis un petit vent de nord-est aussi sur les régions du nord. Et pour les températures, eh bien ce sera de saison avec 20 degrés à Cherbourg, 23 à Lille et Strasbourg, 24 à Paris, 26 degrés à Nantes, Limoges et Lyon, 27 à Toulouse, 29 pour Marseille et pour Ajaccio et on ira jusqu'à 30 à Perpignan.
C'est bien noté. Élodie Calac, Météo France.